Couvrir avec vous la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8. Vous parlez de la venue de Jésus. Hein, mon titre, c'est Noël, c'est victoire sur la peur. Parce qu'on va le lire ensemble et on va voir que il y a bien des choses qui sont là pour nous effrayer, surtout pendant ce temps de particulier, de pandémie, ce temps où... on ne sait pas ce que demain va être. On parle bientôt d'un troisième confinement, on ne sait pas. Mais les professeurs, les chercheurs en parlent de plus en plus. Hein. Nos hommes politiques commencent à en parler, mais bon, on ne sait pas. Alors on ne sait pas, mais jusqu'à quand l'été Voilà, donc c'est quand même très incertain. Hein. Amen. Alors je lis avec vous, Luc chapitre 2, verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers » qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. » Pouvons dire que la vie de Jésus se trouve entre deux guillemets. Au moment de sa naissance, Luc le dit bien dans ce chapitre 2, verset 10, l'ange leur dit « Ne craignez point », s'adressant aux bergers qui étaient là, « car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » On l'a lu ensemble, ils ont été saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Aussitôt après sa résurrection, Matthieu chapitre 28, verset 5, nous dit ceci, « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Amen. La venue de Jésus, ça a été un moment particulier. Il y a eu tous ces temps où, justement, le peuple s'est réjoui, où on a accueilli de tout cœur pour ceux qui y croyaient, justement, la présence de Jésus avec eux. Il y a eu tous ces faits, tous ces actes, toutes ces paroles de Jésus qui étaient là pour fortifier, pour encourager, pour montrer que, avec Jésus, on n'avait rien à craindre. Et puis, il y a eu sa mort. Il y a eu ce moment particulier où... il a dû passer par la mort, il a dû souffrir, et il a dû être séparé de ceux qui le suivaient, bien sûr, eux ont été séparés de lui. Et puis, il avait pourtant dit que le troisième jour, il sortirait vainqueur de la mort. Il avait pris le temple de Jérusalem en disant, « Voyez ces pierres, cette bâtisse, elle est formidable. Oui, Seigneur, tu sais qu'on a mis 40 ans pour la construire. » Mais il dit, « Moi, en trois jours, je la rebâtirai lorsqu'elle va tomber. » Ah, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Voyez un petit peu. Et puis là, c'est le moment. La résurrection est là. Les gardes se mirent à trembler. Ils devinrent comme morts. C'est eux, cette fois-ci, qui passaient par là. Et puis l'ange qui prend la parole, une deuxième fois, on le lit. Il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alors nous pouvons remarquer l'analogie frappante entre ces deux déclarations. Elles sont faites par des anges. Le point commun, c'est de mettre en évidence la venue de Jésus et la résurrection avec la victoire sur nos craintes, sur nos peurs. Amen. Il est celui qui appelle des choses qui ne sont point, et sur sa parole, voici qu'elles deviennent une réalité. Il est celui qui est vainqueur sur la nature. Là, il est vainqueur sur la mort. Amen. Et oui, ce n'est pas des choses qui sont communes, bien sûr. Alors la place de la peur et de la crainte dans la vie des hommes est bien plus importante qu'on veut bien le dire ou l'avouer. Qui ce matin a envie de dire « moi j'ai peur » ? Qui le dit facilement autour de lui ? Moi il m'a fallu du temps. Quand j'étais confronté à la réalité de ce monde invisible, que j'étais en présence de personnes qui étaient mortes depuis quelques-unes depuis longtemps, d'autres qui étaient toutes récentes. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était l'adversaire qui se manifestait parce que Dieu le voulait pour m'arrêter, pour me montrer que Eh bien, lui, il était au-dessus de ça. Il était bien plus grand. Donc, c'est vrai, la crainte. Avouer à une femme que j'avais peur. Il faut le faire. J'étais sur mon piédestal. Moi, il m'a fallu descendre. Et bien vite, parce que la nuit allait arriver à nouveau. Et j'allais être confronté encore à ces choses-là. Du moins, je le pensais. Je disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un petit peu, donc, la peur, la crainte, elle a une place importante dans la vie de l'homme, bien sûr, et bien plus importante que ce qu'on veut bien le dire ou l'avouer. La peur, c'est une souffrance. La peur, c'est une souffrance qui nécessite une guérison. Allez, une délivrance, un affranchissement, une libération. Amen. On ne peut pas vivre avec la terreur dans le cœur en permanence. Comment jouir de la vie? On va se replier sur soi-même, on va s'enfermer et on ne va plus sortir. Donc il faut en être délivré, guéri. Amen. Certaines maladies sont des phobies, hein, ce qu'il faut dire, des peurs. Les causes, bien, elles sont multiples. J'en ai noté quelques-unes. Il y a la peur due à l'incertitude. Que sera fait demain? Eh oui. Il y a la peur qui est liée au danger qui nous environne. Et du danger, il y en a. Il y a la peur liée aux inquiétudes de la vie, la peur de manquer sur le plan matériel, la peur de manquer d'affection. Elle peut être aussi en relation avec la santé, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être ou ne plus être aimé, la peur de ne pas être apprécié, la peur de la mort, la peur de Dieu. La peur également venant de notre propre caractère. De notre propre nature, quelquefois on se fait peur. On croyait incapable de faire ça. Et pourtant, qu'est-ce que dans cette affaire-là, j'ai été méchant. Vous voyez, la peur de se découvrir telle que l'on est face à des situations imprévues, on se fait peur. Alors ce qui est bon, bien sûr, c'est de regarder l'origine, l'entrée de la peur dans le monde, mais également son développement dans le cœur humain. Le premier à avoir reconnu le fait d'avoir eu peur, c'est Adam. Genèse, chapitre 3, verset 10, Dieu l'appelle, Dieu le cherche, « Adam, Adam, où es-tu ?» Et Adam, il ne répond pas. Il ne répond pas, Adam, il s'est caché. Tout d'un coup, il a vu qu'il était nu. Et vous aussi, donc il ne sait plus où il en est. Et puis cette voix qu'il aimait, et le soir, Dieu descendait, Dieu venait dans le jardin, il lui parlait, ils étaient heureux, Adam et Ève étaient émerveillés. Et puis voilà que soudainement, ils réalisent qu'ils sont nus, il n'y a plus de paix dans leur cœur, il y a la peur. Il va répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Vous voyez, c'est le premier à avouer qu'il a peur. C'est le début de la création, hein. Premier homme, première femme. Alors cette peur est venue d'un sentiment de culpabilité et surtout de la crainte et d'un châtiment. Dieu n'avait-il pas dit, voyez, mangez de tout, profitez de tout, le jardin est à vous, hein, allez, vous l'avez en gestion, là. Hein. Allez, soyez bien. Hein. Attendez, cet arbre-là, je vous le dis, vous n'y toucherez point. Parce que le jour où vous allez en toucher, vous allez mourir, c'est une certitude. Et on sait ce qui s'est passé. On a subi aujourd'hui les conséquences encore. C'est qu'ils sont allés goûter du fruit défendu. Amen. Alors bien sûr, il y avait la crainte du châtiment. Hein. Alors il est certain que cette peur qu'a connue Adam était liée à une réelle culpabilité. Il savait. C'est pour ça qu'il se cache et qu'il ne répond pas. Hein. Mais je dirais qu'il n'est pas possible d'affirmer que c'est toujours le cas. Toujours parce qu'il y a culpabilité, parce que, eh bien, on a fait des choses que Dieu réprouve. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, quelles sont les conséquences de la peur? À part les peurs parfois nécessaires, elles sont là pour nous éviter de tomber dans le danger, de nous mettre dans des situations, eh bien, délicates ou difficiles, où il va y avoir des conséquences. D'ailleurs, quelles sont les conséquences de la peur? Est-ce que c'est du positif ou est-ce que c'est du négatif? Et c'est toujours négatif. La peur est nuisible, la peur est destructrice. Et bien sûr, certains vont fuir comme Élie qui va dans le désert, qui demande la mort. Parce qu'il a peur. D'autres mentent comme Abraham va le faire à une certaine occasion. Vous voyez un petit peu? Je parle d'Abraham, le père d'une multitude. D'autres boivent, d'autres se droguent ou se jettent à corps perdu dans des activités pour ne pas penser parce qu'ils ont peur. Et il y a bien des peurs qui peuvent nous amener justement à faire des choses qu'on ne pensions pas être capables de faire. On ne sait jamais. Et puis d'un coup, oh, la peur. La peur nous saisit. Et la peur nous amène à la dérive. Il y a le serviteur de la parabole des talents, qui est une illustration. Dans Matthieu 25, verset 25, vous savez, ce maître qui s'en va, il donne à ses ouvriers, à ses métayers, ou je ne sais pas comment on va les appeler, mais qui leur donne des talents, un 10, l'autre 5, un autre 1, bien sûr. Et celui qui a reçu un, il dit, j'ai eu peur. Et au retour du maître, quand le maître demande des comptes, il dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ben, je sais que tu es un maître qui vient moissonner où tu n'as pas semé. Tu amasses là alors que tu n'as rien fait. Donc, j'ai eu peur. Et la peur l'a amené justement à ne rien faire. Ça l'a paralysé. Il n'a pas été productif comme son maître l'attendait. Il l'a mis dans la terre. Et puis, il dit, voilà, j'ai eu peur. Alors, je te le rends, voilà, il est là. Et on sait que le maître va répondre, mais tu aurais dû le donner aux banquiers, les banquiers seraient rapportés, et j'en aurais retiré le produit en revenant, bien sûr. Alors, faisant sur son maître, c'est-à-dire sur Dieu, un transfert de l'état de son propre cœur, eh bien, il s'est aigri, il s'est coupé des autres, il n'a rien entrepris, il est devenu agressif, il s'est bloqué dans un état intérieur mauvais. C'est des situations qu'on peut connaître, ça. C'est difficile, c'est lourd la peur, la crainte, lorsqu'elle nous tient. Alors imaginons les conséquences terribles de la tyrannie de la peur sur nous, sur notre santé, sur nos relations, quelquefois conjugales, familiales. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça ne vous est pas arrivé de vous trouver devant une personne à qui vous n'avez jamais rien fait de mal et qui, d'un coup, vous la sentez se fermer, vous allez la voir, vous ne pouvez même pas l'aborder. Et oui, on coupe les relations, on s'isole. Et oui. Alors la peur est vraiment, je dirais, une ennemie à vaincre. Mais comment être délivré de nos peurs? Parce que c'est bien de savoir, de faire le constat, mais il faut savoir comment s'en sortir. Eh bien, là est toute la question. Il faut écouter ce que nous dit l'Écriture parce que l'Écriture est là pour notre bien, elle est là pour notre enseignement, elle est là pour que nous puissions nous épanouir, être libérés. Je dis que l'Écriture, il faut l'écouter parce que c'est d'elle que nous vient la réponse. Et je dirais que David va nous en montrer le chemin dans sa démarche personnelle. Psaume 34, d'ailleurs il a été lu, au verset 4. David dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je prends l'autre version, celle à la colombe qui a été donc projetée. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'arrache à toutes mes frayeurs. Et quelquefois, c'est Dieu nous doit nous arracher parce qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. On est dans la terreur de faire quelque chose qui sera désagréable à Dieu. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus discerner notre gauche, notre droite, on ne sait plus, on a peur. Alors quand je dis que David, il sait de quoi il parle, oui, c'est vrai. Pouvons penser, pour certains, qu'il n'a pas eu peur du lion, ni de l'ours. Même Goliath, ça ne l'a pas impressionné. Et on peut dire, mais cet homme était à l'abri de tout. Eh bien non, il a connu toutes sortes de frayeurs, de peurs. Ah oui. Il a eu peur d'un adversaire jaloux. Vous connaissez le roi Saül? 1 Samuel 27, verset 1er, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, chez l'ennemi. » Je rigole un peu, mais c'est ironique, mais c'est ça. On est capable de faire des choses insoupçonnables. Hein, il dit comme cela, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Lui qui était capable de mettre toute une armée en déroute en battant le chef, hein, le champion, Goliath. Il a eu peur également du monde auprès duquel il est allé à tort se réfugier. 1 Samuel 21, verset 10. David se leva, s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achis, roi de Gath. Les serviteurs d'Achis lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant ? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles. Il eut une grande crainte d'Achis, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Diamant. Là, il y a le comportement de quelqu'un qui... Excusez-moi, il a pété un câble. Voyez ? Attendez, c'est David dont on dit qu'il a tué ses 10 000. Et là, il se trouve dans une situation, vous voyez, il est en train de descendre, descendre. Il s'éloigne de Saül parce que il veut quelque part, non pas tomber sous sa main, mais s'éloigner de lui. Ça continue, eh oui. Et puis, vous allez voir un petit peu plus loin. Il va avoir peur de la réaction des autres, de leur propre peur, justement, qu'il ne pouvait gérer. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. David, fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant, sur l'Éternel son Dieu. Il part du pays de Gath, comment s'appelle la ville où il est allé se réfugier, j'ai perdu le nom, Tsiklag. Et puis en arrivant un petit peu sur la colline, là où on aperçoit Tsiklag en dessous, qu'est-ce qu'il voit ? La fumée qui monte. Et oui, pendant qu'il était là-bas, quelque part il n'était pas à sa place là-bas, hein, puisqu'il allait également se liguer contre Israël pour faire la guerre. Contre Israël, son peuple, les siens. Il est à Tsiklag, il s'est réfugié chez l'ennemi, dans un territoire ennemi. Et pendant ce temps, les Amalécites, eux, ils sont venus. Ils ont amené femmes, enfants, tous les troupeaux, tous les biens, toutes les richesses. David, là, c'est le grand responsable, c'est lui le chef. Hein. Un, il a perdu tous ses biens, sa femme, enfin ses femmes, ses enfants. Donc il est dans une grande inquiétude, et puis il sent que l'inquiétude grandit, parce que chacun est inquiet de son côté. Chacun a de la peur, de la crainte dans le cœur. Et voilà que tout ça s'agrandit, ça gronde autour de lui. Donc David est dans une grande crainte, il a peur. Mais heureusement qu'il va faire quelque chose d'important. Il dit qu'il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Si David n'avait rien fait, s'il était resté comme il était en disant « Hey, c'est moi le chef !» Qu'est-ce qui se serait passé ? Tout le peuple se serait lié contre lui. Ils seraient tous devenus des chefs. Ça aurait été la fin pour David. Mais il a su récupérer la situation, reprendre courage, parce qu'il a su se remettre entre les mains de Dieu. Amen. Il a eu peur également à cause d'une circonstance dure et incompréhensible. Vous vous rappelez de la brèche d'Uza ? L'arche de l'Éternel était chez les Philistins, etc., etc. Puis il décide de la récupérer, il la récupère parce que les Philistins voulaient s'en débarrasser, ils ne la voulaient plus parce qu'il ne leur arrivait que des bricoles. Et oui, il n'y avait aucune crainte chez eux, donc ça ne pouvait pas demeurer comme cela, hein, au contraire. Alors David choisit de la faire revenir, mais je ne sais pas s'il ne se rappelait plus de la manière dont on devait faire. Mais peut-être c'est pour la ramener rapidement. Hein. Vite, vite, on l'éloigne de là, on la ramène à la maison. Dieu sera avec nous, il est pour nous d'abord. Et puis, on la met, cette arche, sur un char. On va la faire tirer par des bœufs. Et puis, le char, vous savez, il fait comme ça. Hein. Il n'y a certainement pas les amortisseurs que l'on a une certaine voiture. Mais voilà que l'arche, à un moment donné, elle est prête à tomber parce que le char est en train de pencher. Et voilà que les fils d'Uza, paf, les fils de Péri, je crois, ils mettent la main, il y en a un qui met la main pour l'arrêter, pour la tenir. Et hop, il est frappé instantanément de mort. David a peur. Hein? Il dit en ce jour-là, mais comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il a peur. Mais oui, parce que pour lui, c'était incompréhensible. Ramène la présence de Dieu, l'arche de Dieu dans, allez, chez nous. Ben oui, mais il ne comprenait pas. C'est des circonstances particulières, bien sûr. Hein? Il a eu peur également des conséquences de son péché en relation avec la culpabilité. Dans le psaume 38, verset 19, il dit « Je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Amen. Eh oui, quand on a commis le péché, est-ce qu'on est bien? Quand on a désobéi? On avait un enfant, nous, Daniel, notre deuxième. Quand il avait fait une bêtise, il en faisait souvent. Mais quand il avait fait une bêtise, quand maman le couchait, au bout d'un moment, « Maman, maman, viens, je veux te parler. » Et puis il disait, « Maman, voilà ce que j'ai fait. » Il ne pouvait pas dormir tant qu'il ne l'avait pas avoué. Eh oui. Vous voyez, c'est comme ça chez nous, nous les grands aussi. Hein, on n'est pas bien, même si on ne veut pas le dire. Même si on va tourner en rond, on sait qu'à un moment donné, il faudra faire ce qu'il faut faire, hein, parce qu'on n'est pas bien. Hein. Il va connaître aussi la peur venant d'un domaine non remis entre les mains de Dieu, vous savez, dont il veut garder le contrôle. Eh oui, psaume 31, verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains, et là tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Vous voyez, des fois on veut garder le contrôle. Puis on est dépassé. On est dépassé. Oh ! Et là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas tranquille parce qu'on ne sait plus comment ça va se terminer. Ah oui. Mais ce qu'il faut, c'est tourner les regards vers Dieu. Hein. Les solutions le sont là, le sont en relation avec tout ce qu'on a cité au-dessus. Sont en relation directe avec quoi ? Avec la foi. Est-ce que nous avons vraiment confiance en Dieu? Est-ce que nous croyons que le Seigneur Jésus a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel? Est-ce que nous croyons qu'il est capable d'être le maître de tout? Si oui, eh bien, il faut passer par la repentance. Quand on a failli, quand on a désobéi, quand on a voulu faire soi-même en disant « je vais y arriver ». Ça, je sais maîtriser. Puis là, il y aura une transformation de notre nature. Parce que quand on est vrai, Dieu débloque les situations. Quand on est honnête, quand on est sincère. Amen. Alors, pour nous arracher à nos frayeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus les a affrontés à Gethsémané. Et à la croix, il les a vaincus. Amen. Tu es dans la frayeur, tu es dans la crainte, tu es dans la peur, parce qu'il y a des choses qui te dépassent. Allez, viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Amen. Il a fixé, il a cloué nos peurs à la croix pour nous en délivrer. Et la foi en lui et en son œuvre accomplie, eh bien, nous affranchit de la peur du jugement. Parce qu'il l'a pris sur lui. Il a été jugé à notre place. Amen. La foi en lui nous a franchi de la peur du châtiment, car lui, il a subi le châtiment pour nous. Alléluia. La foi en lui nous a franchi de la peur de la mort, parce qu'il l'a vaincu, la mort. Amen. La foi en lui nous a franchi de la peur du lendemain, car il veut y pourvoir. Amen. Il est celui qui veut nous donner. À chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Ne vous morfondez pas. Ne soyez pas dans la crainte. Je sais que l'incertitude est là, mais est-ce que vous êtes dans les mains du Seigneur? Est-ce qu'il vit? Quand je dis il vit, est-ce qu'il vit réellement en vous? C'est important. Amen. Il dit que l'amour parfait, oui, triomphe de la crainte, de la peur, de la peur. Alors son amour parfait est là pour nous rassurer. Il chasse la crainte, il chasse la peur, elle a peur du châtiment parce qu'il l'a pris à la croix. Il a pris le châtiment qui nous revenait à la croix. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Formidable, hein, que la venue de Jésus ici-bas. Nous aurions pu demeurer, eh bien, dans la crainte en permanence. Dieu aurait pu nous laisser comme cela. Allez, débats-toi dans tes problèmes. T'as peur? Bien fait pour toi. Non. Non. Dieu ne veut pas cela. Ne crains point. Je suis là. Les disciples d'Emmaüs, on l'entend dans ce don spirituel. Dieu est là. Jésus est là. Sa venue, c'est cette victoire, non pas seulement sur la mort, mais également sur les conséquences de la peur. Une frayeur peut venir, mais ensuite, en nous plaçant tout simplement, eh bien, au pied de la croix, ou en nous réfugiant dans la présence du Seigneur, ben, la peur va partir, la crainte va s'en aller. Il faut aussi, eh bien, lui avouer toutes nos craintes, toutes nos peurs. Eh oui, il faut lui ouvrir tout notre cœur. Il faut le laisser nous visiter. Il est venu pour nous rassurer. Il est venu pour nous encourager. Amen. Mais j'y reviens. Est-ce que je le crois? Il faut croire tout simplement en sa parole. Il faut avoir foi en elle. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa parole sera là justement pour nous redonner la paix, pour nous redonner le vrai bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut vivre dans la crainte? Pas longtemps. Est-ce que nous avons été créés pour vivre dans la crainte? Non. Jésus est appelé le prince de la paix. Amen. Il est appelé le divin conseiller. Alléluia. Puisses-tu lui faire confiance, t'approcher chaque jour de lui. Amen. C'est la période de Noël, c'est une période troublée également. 2020 a été particulier. Hein. C'est pas pour vous, mais si, pour tout le monde. Hein. Pas un seul continent, le vieux continent, mais tous les continents ont été touchés. C'est exceptionnel. Mais le Seigneur Jésus est toujours là. Amen. Il veille sur nous. Il veille sur toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Il est là pour te rassurer. Pour te dire, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Crois en moi. Amen. J'ai vaincu. J'ai triomphé. Sur toutes tes frayeurs, sur toutes tes peurs. Tu es inquiet? Rassure-toi. J'ai quelque chose pour toi. Amen.